14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Cette inscription, on ne peut pas dire que c'est Madame Marshall qui l'a fait. Tout est renversé. Si ce n'est pas Madame Marshall qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est un familier qui accuse Omar, parce qu'il connaît l'existence du jardinier. Donc, ça ne devient plus une accusation, ça devient une manipulation.
Bonjour, Omar m'a tué. Cette phrase est probablement l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle. Il y a 27 ans, elle envoyait le jardinier marocain Omar Radad en prison pour le meurtre de sa patronne, la riche Ghislaine Marshall, dans une villa de la Côte d'Azur. Condamné à 18 ans de prison, Omar Radad ne va jamais cesser de clamer son innocence, mais la justice ne l'entendra pas. Il semblait alors destiné à mourir coupable. Les espoirs de voir un jour son procès révisé s'effilochant au fil des années. Il faudra que l'ADN, la reine des preuves comme on l'appelle, vole enfin à son secours et entr'ouvre le rideau sur de nouvelles investigations. Après bien des tours et des détours, des hésitations, jeudi 16 décembre 2021, la Cour de cassation a ainsi ordonné un complément d'information dans ce dossier. Un petit pas dans cette affaire, mais un pas de géant qui pourrait conduire, qui sait, un jour à un nouveau procès. Une page est-elle en train de se tourner dans l'affaire Radad? La justice s'est-elle trompée de coupable? On en parle avec nos invités et acteurs de premier plan de cette affaire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Omar Radad, un combat judiciaire qui dure depuis 30 ans. Tout commence un soir d'été 91 par une macabre découverte derrière les murs d'une villa cossue qui domine la baie de Cannes. Le lundi 24 juin 1991, à 17h, les gendarmes Littke et Teulière se présentent à la grille de la villa La Chamade, une grosse maison en crépi rose sur les hauteurs du village de Mougins. La propriétaire, Ghislaine Marshall, 65 ans, veuve de Jean-Pierre Marshall, un renommé fabricant d'équipements automobiles, n'a plus donné signe de vie depuis la veille, en fin de matinée. Une amie lui a parlé au téléphone dimanche vers 11h50, puis plus rien. Un employé de la société de gardiennage a été appelé, mais il n'a trouvé personne dans la villa où aucun désordre ne semblait régner. Les gendarmes ont les clés, ils inspectent la demeure, au sous-sol la porte de la chaufferie leur résiste. Ils distinguent un lit pliant qui bloque l'ouverture et également un tube métallique appuyé sur un chevron de bois. La lumière est allumée avec un interrupteur couvert de sang. Ghislaine Marshall gît face contre terre, uniquement vêtue d'un peignoir retroussé jusqu'à la taille. L'autopsie dira qu'elle a été frappée à la tête avec un chevron. Elle porte également une dizaine de coups de couteau au cou et à l'abdomen. Le capitaine Saint-Cy note que l'assassin semblait déterminé, mais aussi maladroit ou mal à l'aise dans ses mouvements. Sur la porte de la chaufferie, il y a ce début de phrase « Omar m'a tué ». Sur celle de la cave, les mêmes mots, mais bien lisibles, cela. Omar m'a tué, tué avec un R, faute de syntaxe qui va faire couler beaucoup d'encre. Qui en voulait à Ghislaine Marshall, cette femme au caractère bien trempé, qui habitait seule? D'après les premiers experts graphologues, ce serait bien elle qui aurait tracé les lettres de sang destinées à désigner son meurtrier, même si on peut se poser la question. Comment une femme aussi cultivée, passionnée de mots croisés, aurait-elle fait une telle faute d'accord? Les experts estiment que ce détail n'a pas d'importance. Un seul Omar dans l'entourage de la veuve, le jardinier marocain Omar Radad, 29 ans. Il est à son service depuis 4 ans. Un garçon qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour parler français, mais qui est sérieux, dévoué. Il est marié à Latifa et père de deux garçons à qui Ghislaine Marshall a fait des cadeaux. Son épouse vient tout juste d'accoucher d'un troisième enfant. Les gendarmes veulent absolument l'entendre. Il est interpellé sans la moindre difficulté. En garde à vue, il tombe des nues en apprenant qu'on le soupçonne d'avoir assassiné sa patronne. Il nie résolument et calmement. 27 juin 91, l'affaire n'a pas traîné. Omar Radad est inculpé du meurtre de Ghislaine Marshall. Interrogé par la juge Sylvie Arfiningo, le jardinier clame son innocence. Il déroule un emploi du temps qui ne va jamais varier. Le dimanche, à midi, il a quitté son travail chez une habitante de Mougins, Madame Pascal. Il a pris sa mobilette, direction Mougins, a acheté une demi-baguette à la boulangerie. Des témoins confirment. Il a mangé chez lui et retourné chez Madame Pascal vers 13h. Il n'est jamais passé chez Madame Marshall. Il dit l'avoir vu la dernière fois le vendredi vers 17h15. Les enquêteurs pensent que Omar ne voulait pas tuer sa patronne, mais il s'est sans doute disputé. Pour une affaire d'argent, le jardinier était toujours en cours de liquidité. pas d'empreinte de lui dans la cave, un timing très serré pour commettre le crime, aucun aveu, mais Omar Radad est placé en détention. Et voilà donc pour la première phase de cette enquête extraordinaire qui va durer, on s'en doute pas à l'époque, mais qui va durer des années et qui dure effectivement depuis 30 ans. Bonjour Maître Sylvie Novakovic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans le studio de l'heure du crime sur RTL, une maison que vous connaissez parfaitement.
Oui.
Vous êtes évidemment l'avocate d'Omar Radad. On va parler évidemment de cette scène de crime et de ces premières heures qui sont importantes dans la construction de l'affaire. Mais je vous laisse juste un mot tout de suite. Il y a une lumière qui est allumée, vous avez réussi à entrouvrir, si je puis dire, le rideau de cette affaire qui va peut-être repartir. Vous ne pouvez que l'espérer, avec peut-être un nouveau procès à la clé. Ça a été un combat difficile et un combat très long, je crois.
Un combat très long et très difficile, puisque depuis que je suis saisie en 2008, autant vous dire que ça a été un combat extrêmement lourd. Et j'ai combattu au départ auprès du ministère de la Justice, ensuite auprès du procureur, et finalement cela aboutit à une loi, la fameuse loi de 2014 qui a permis enfin que je puisse réclamer des actes auprès du procureur, et monsieur Bedos, procureur de la République, a accepté ces actes et donc d'ordonner une expertise. Et c'est le docteur Pascal qui a déposé son rapport.
Et donc là, on est parti sans doute pour quelques mois et peut-être même des années, on ne sait pas, hein, d'expertise.
Oui, absolument. Alors, donc il y a eu des expertises qui sont sorties, des ADN qui sont sortis, et à partir de là, eh bien, j'ai saisi la cour de révision.
La cour de révision qui va examiner donc ce dossier, et c'est évidemment une victoire pour vous et pour les défenseurs en général d'Omar Radad. Je parlais de cette scène de crime, Sylvie Novakovic. Il y a cette écriture qui va tout déterminer. Ça va être vraiment le point important sur lequel tout le monde va se focaliser. C'est ce « Omar m'a tué ». Pourquoi vous dites-vous que finalement c'est pas lui qui a pu écrire ça ?
C'est absolument impossible. Alors si vous voulez, matériellement parlant, c'est impossible pour la raison suivante. Vous avez deux portes. Porte de la chaufferie, porte de la cave à vin. Et on a deux écritures, donc si vous voulez, en lettres de sang, et on s'aperçoit finalement, on se dit, comment une personne qui est à l'agonie, dans cet état épouvantable, puisqu'elle avait été martyrisée, vraiment, ça a été, on voit son cadavre dans des conditions, ses tripes sortaient, enfin, c'était affreux, et comment cette personne aurait pu faire ses écritures en lettres de sang ? Elle se serait appliquée, tout le monde les a vues, Omar m'a tué, donc on voit une certaine application, on oublie même, surtout pas l'apostrophe. Vous imaginez une personne qui est à l'agonie.
C'est précis.
Elle précise l'apostrophe, Omar m'a tué, et puis elle va ensuite toujours à l'agonie, se précipiter alors qu'il n'y a aucune trace de sang par terre, se vautrer,
glisser,
par terre, se glisser par terre jusqu'à soi-disant jusqu'à la deuxième porte de la chaufferie pour dire Omar mate. Si vous voulez, c'est impossible, c'est ridicule, et puis on ne voit pas une personne désignée se dire voilà, je suis en train de mourir, ça n'existe pas.
C'est ce que disent d'ailleurs les sociologues et les psychiatres. Ils disent que quelqu'un qui va mourir n'écrit jamais qu'il va mourir.
Eh ben non, décéder, surtout qu'elle ne voulait jamais pas mourir, certainement.
Bien sûr.
Et puis, on ne voit pas aussi un assassin partir en la laissant agonir. On fait en sorte de bien l'achever avant de partir. Ce serait ridicule, parce qu'il aurait désigné son coupable. Donc, bien évidemment, c'est ridicule. Je ne comprends même pas comment on a pu s'attacher à cette version-là, qui est invraisemblable. Parce que, tenez-vous bien, pourquoi n'aurait-elle pas tout simplement écrit Omar et par terre ?
Bien sûr.
Parce que le sol était clair.
Oui.
Donc c'est ridicule.
C'était plus facile, effectivement. Mais à l'époque, c'est vrai que les enquêteurs, ils ne vont pas beaucoup s'interroger là-dessus, sur le pourquoi du comment. Il y a
non.
une signature qui existe sur ces portes.
Absolument.
Elle est en lettres capitales, elle est énorme et on va la suivre.
Mais vous avez très bien qu'on dit toujours, plus le mensonge est gros et plus on y croit.
C'est ça.
Donc incroyable qu'on ait pu rentrer dans cette version. Et d'ailleurs, à l'époque, le juge d'instruction avait dit qu'elle avait déclaré son testament. Elle avait écrit son testament en marquant Omar m'a tué. C'est incroyable. Donc, le juge d'instruction, dès le départ, elle avait dit ça aux médias. Donc, dès le départ, elle avait cette espèce d'a priori de la culpabilité d'Omar Radad. Donc, toute l'enquête s'est tournée vers Omar Radad et pas d'autres pistes.
Et le seul Omar, d'ailleurs, c'est Omar Radad, le seul Omar que connaissait la victime. Bonjour Jean-Marie Roir.
Bonjour.
Merci vous aussi d'être en studio dans l'heure du crime aujourd'hui. Écrivain et académicien, auteur du livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, Omar, la construction d'un coupable, qui était paru aux éditions Le Fallois. Jean-Marie Roir, question, comment vous êtes à l'époque, vous n'êtes pas encore académicien à l'époque de ce crime, vous êtes écrivain, renommé, journaliste, qu'est-ce qui vous prend de rentrer dans cette affaire d'un seul coup et de dire, de prendre la défense de Omar Haddad? Quelle mouche vous a piqué?
Bien écoutez, c'est en juin, à la fin juin, je vois dans un journal, en 91, je vois dans un journal l'affaire Omar, l'inscription, et immédiatement j'ai cette réaction d'écrivain, de romancier, qui essaie d'écrire des romans un peu plausibles, et je me dis, mais ça ne tient pas debout, c'est du mauvais Agatha Christie, c'est le mystère de la chambre jaune, c'est grotesque, et j'observe alors petit à petit que les gendarmes, qui, devant l'absence de mobile, essaie de construire ce coupable en imaginant qu'il avait des besoins d'argent, qu'il allait voir les prostituées. Enfin, il y a vraiment, oui, petit à petit, une construction, alors que dès le point de départ, c'est que cette inscription, pour moi, c'était pas elle qui l'a écrite. Et d'ailleurs, il faut voir que la cave était fermée de l'extérieur quand les gendarmes arrivent. Ils sont obligés de chercher les clés.
Ils utilisent une clé, un passe.
Pour trouver la clé de la cave. Donc, c'est l'assassin qui a eu le dernier mot. Et ensuite, je crois que ce qui est important, c'est de montrer maintenant, non pas les inscriptions, mais de montrer le cadavre. Quand on voit le cadavre, moi j'ai vu les photos, et Maître Novakovic les a montrées devant la commission de révision, eh bien, on voit qu'elle était absolument, elle n'était pas dans l'état de pouvoir faire n'importe quelle inscription.
De pouvoir écrire la moindre lettre sur ces fameuses portes. Omar Haddad a beau nier, clamer son innocence, on ne l'entend pas. Il va rester jusqu'à son procès le suspect numéro 1 du meurtre de Ghislaine Marchal. Dès lors, plus aucune piste ne sera exploitée. Au programme de l'heure du crime, retour sur l'affaire Omar Haddad. Le jardinier marocain s'est retrouvé à l'été 91, seul accusé du meurtre de sa patronne, la fortunée Ghislaine Marchal. Il nie les faits, il est jugé 3 ans plus tard. Ce 24 janvier 1994, Omar Haddad, silhouette fragile dans un costume trop grand pour lui, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. En prison, il n'a cessé de se déclarer innocent. Il a mené une grève de la faim et a même fait une tentative de suicide. Son avocat du moment, maître Jacques Vergès, conteste fermement la validité des expertises graphologiques, attribuant la phrase « Omar m'a tué » à la victime. Au procès, l'un des graphologues finit par admettre qu'il ne peut pas être formel à 100%. Les témoignages sont plutôt favorables au jardinier. L'absence de ses empreintes sur la scène de crime prêche également en sa faveur. Le président Armand Djian va pourtant se focaliser sur Haddad, explorant les moindres détails de sa vie privée, jusqu'à lui reprocher son goût pour les jeux d'argent et de supposées fréquentations de prostituées, contraire aux préceptes de sa religion musulmane. Le président semblait avoir oublié qu'il devait juger si j'avais ou non tué Madame Marchal, et non si j'étais un bon ou un mauvais musulman, commentera plus tard Omar Haddad. Le journal Le Monde parle d'impressionnisme judiciaire. Aucune preuve, mais une série de suppositions malgré les doutes. De février au soir, le jardinier de Mougins est condamné à 18 ans de prison. Il est effondré. Le verdict est très loin de faire l'unanimité. Un mois après la fin du procès, l'écrivain et futur académicien Jean-Marie Roire fait paraître un livre qui fait sensation, Omar Haddad, la construction d'un coupable. Le jardinier aurait été le bouc émissaire d'un meurtre privé. Un comité de soutien voit le jour. Pas d'appel possible à l'époque en cour d'assises. Jacques Vergès n'a d'autre choix que de se pourvoir en cassation. Il dénonce le comportement du président de la cour d'assises qui aurait influencé les jurés. Il présente un nouveau témoignage, celui d'une Néo-Zélandaise, Patricia Clark, qui le jour du crime a observé une camionnette avec des morceaux de bois ensanglantés à l'arrière. La gendarmerie n'avait pas jugé bon de l'entendre. Mars 95, le pourvoi est rejeté. Il n'y aura pas de nouveau procès. Reste que les doutes ne vont cesser de s'amplifier. Une multitude de pistes, les plus diverses, intrigantes, fantaisistes, vont agiter les imaginations. Une condamnation des plus fragiles. 23 mai 96, Jacques Chirac accorde une grâce partielle au jardinier. Celui-ci sort de la centrale de Muret 2 ans plus tard, après 7 années passées en détention. Omar Haddad, à demi-gracié, reste coupable. Il souhaite un nouveau procès qui pourrait l'innocenter, alors qu'un témoignage inédit est toujours susceptible de faire basculer l'affaire. C'est sur le terrain scientifique que tout va se passer. 6 ans après la condamnation, la commission de révision des condamnations pénales ordonne une nouvelle expertise graphologique. Cette fois, après remise d'un rapport de 150 pages, les spécialistes ne sont plus sûrs de rien. D'autre part, l'inscription « Omar m'a tué » est composée du sang de la victime et de sang masculin. Dans les mois qui suivent, une nouvelle expertise est réalisée sur le chevron qui a servi à frapper Ghislaine Marchal et sur les portes de la cave. L'ADN entre alors en piste. Des traces génétiques masculines sont relevées, traces non identifiables. Seule certitude, l'ADN d'Omar Radad est absent. Novembre 2002, en dépit de ces indices, la cour de révision rejette un nouveau procès. Et vous allez mettre Sylvie Novakovic, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, vous allez mettre Novakovic bientôt reprendre le flambeau et rapidement de cette affaire. Pourquoi est-ce qu'on refuse à l'époque un nouveau procès ?
Parce que la cour de révision avait, j'ai lu la motivation, a considéré que les ADN ne pouvaient pas être datés et qu'on ne pouvait donc pas savoir s'ils dataient de l'époque du crime ou s'ils étaient postérieurs dus à des pollutions.
Ou antérieurs, hein, antérieurs ou
postérieurs. Antérieurs, postérieurs ou dus à des pollutions.
Donc ça, c'est le fait majeur.
C'était le fait majeur de la motivation de la cour de révision.
On ne peut pas le dater. Vous allez rencontrer Omar Radad quand vous allez reprendre ce dossier.
Bah, c'est lui qui a demandé à me rencontrer.
Comment ça s'est passé?
Il a demandé à me rencontrer parce qu'il me voyait dans les différentes émissions criminelles et également sur une émission assez connue TF1 et il voyait que je luttais beaucoup contre les erreurs judiciaires, que je ne supporte pas les erreurs judiciaires, il a bien compris. Et comme il estime, et il a raison, qu'il est une erreur judiciaire, eh bien il a souhaité me rencontrer. Et lorsque je l'ai rencontré à mon cabinet, je lui ai dit, écoutez, si mon confrère Vergès a estimé qu'il n'y avait plus rien à faire, je ne vois pas ce que je peux apporter moi. Néanmoins, j'accepte d'étudier votre dossier et de vous dire ce que j'en pense.
Et vous avez quel homme en face de vous à ce moment-là?
Un homme perdu, désespéré, mais en même temps toujours avec cet espoir. Il dit, j'irai jusqu'à la bout de ma vie, j'irai, je me battrai pour prouver mon innocence. Je suis innocent, je vous en supplie de me croire, je veux absolument être innocenté.
Jean-Marie Roir, on entend la détresse de cet homme qui vient vous voir, Maître Novakovic. On entend bien ce souhait de voir son sort réhabilité. On est au creux de la vague à ce moment-là. Les procès ont été refusés, les révisions, etc. Vous êtes un peu seul dans ce combat, non, Jean-Marie Roir?
Ah oui, non seulement je suis seul, mais je vais être très vite traduit devant la 17e chambre pour diffamation.
Diffamation pour votre livre.
Par la famille, pour mon livre, et surtout les articles que j'avais écrits dans le Figaro. Et double peine, je vais être éjecté de la direction du Figaro littéraire. Mais donc je suis en effet un peu seul, mais en même temps, vous savez, je suis porté par cette idée qu'au fond, c'est une cause que je crois profondément à l'innocence, donc je le dis, je ne lâcherai pas. Et puis ensuite, je rencontre Maître Novakovic. Et donc là, nous avons été moins seuls. Nous avons pu continuer ensemble ce combat. Et
vous l'avez rencontré, Omar Radad. Je crois que vous n'avez pas voulu le voir
en
prison.
Alors, je n'ai pas voulu le voir en prison. Je veux dire, à cause de l'affaire Dreyfus. Parce que vous savez que dans l'affaire Dreyfus, les gens qui avaient rencontré Dreyfus ne le trouvaient pas du tout sympathique. Et ils regrettaient de s'être engagés pour un homme qu'ils trouvaient très antipathique. Je me suis dit, je suis certain qu'il est innocent, mais si je le vois en prison et que je trompe sur quelqu'un qui n'est pas très sympathique, ou trop sympathique, je vais sentimentaliser l'affaire. Donc je ne l'ai vu qu'à sa sortie de prison, c'est Maître Vergès qui nous a réunis. Et là, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Il m'a offert d'ailleurs un écritoire marocain sur lequel j'écris maintenant mes livres. Et là, j'ai regretté. J'ai regretté parce que c'est un homme qui est vraiment charismatique. Il y a quelque chose chez lui d'extraordinaire, de spirituellement supérieur. Et d'ailleurs, quand je l'ai
à ce point-là.
Ah oui, quand je l'ai fait venir, d'ailleurs à l'Académie française, quand j'ai été élu, eh bien, les gens qui le voyaient étaient vraiment, ils étaient impressionnés. C'est quelqu'un, quand on le voit, qui vous impressionne. Alors c'est pas, en effet, un intellectuel, c'est pas quelqu'un, il parle assez mal le français, toujours, mais sa présence, et surtout sa sérénité, à la fois sa force intérieure, est extraordinaire.
Et évidemment, vous le sentez totalement sincère. Pour vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Ah
mais parfois on voit dans un regard ou quoi que ce soit.
Non, vraiment. Et là, au contraire, une présence d'une très haute hauteur spirituelle, mais qui a frappé tout le monde. Le directeur de la prison des Murets, quand il entre dans la prison, lui dit « Je sais que votre place n'est pas ici ». C'est-à-dire, tout le monde a très vite compris qu'il était innocent.
Mais c'est aussi un des aspects de l'affaire Omar Radad, c'est qu'il y avait plein de témoignages en sa faveur, y compris au procès, et il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était joué, qu'il allait être effectivement acquitté parce que tout ça ne tenait pas. Mais ça s'est passé tout à fait autrement. Maître Novakovic, vous allez donc reprendre ce dossier. Là, il y a un coup à jouer, c'est l'ADN. Ça commence.
Ah ben, en fait, en examinant, moi, je me suis concentrée sur l'arrêt de la Cour de révision parce que vous savez qu'il faut apporter un élément nouveau pour saisir de nouveau la Cour de révision. On était encore sous l'empire de l'ancienne réforme et en lisant cet arrêt, je me suis dit mais c'est pas possible. On découvre deux, parce qu'à l'époque c'était deux seulement, deux ADN et personne ne s'est inquiété de savoir à qui appartenaient ces ADN, alors même qu'il n'y avait pas l'ADN d'Omar Haddad. Donc si vous voulez, là, j'ai appelé tout de suite Omar Haddad, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je prends le dossier, je l'accepte, parce qu'il y a effectivement une bataille à faire. Il n'est pas normal, au nom de l'ordre public, qu'on ne sache pas à qui appartiennent ces ADN.
Mais, et à l'époque, il y a des réticences. Quand vous avancez ça, on n'a pas tellement envie d'aller chercher.
Mais complètement.
Alors, ça coûte cher, c'est compliqué.
Alors même pas ça coûte cher, c'est que déjà tout de suite ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé qu'on tout de suite, en lettre recommandée, qu'on conserve les portes. Voilà, immédiatement, ça a été mon réflexe immédiat. Ensuite, j'ai contacté le ministère de la Justice, j'ai frappé la porte. Ils me connaissent par cœur là-bas, hein. Moi, je connais par cœur l'entrée. Et je suis rentrée, quand j'entrais par la porte, on me faisait sortir par la fenêtre, et je rentrais par la fenêtre et par la porte. Hein. Je peux passer mon temps à le faire pendant toutes ces années. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, les ministères changent. Un ministre change, un directeur de cabinet change, etc. Mais à chaque fois, je revenais avec mon dossier, et voilà, je veux absolument qu'on compare ses ADN, etc. Jusqu'au jour où, effectivement, une directrice de cabinet m'écoute, m'entend et accepte cette comparaison. J'étais heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Donc, j'attendais les résultats. Et quelques temps plus tard, je la relance. Et à nouveau, changement de ministère. Et elle me répond de toute façon, écoutez, au nom de la séparation des pouvoirs, saisissez le procureur, car je n'ai plus assez de matière pour savoir à qui ça appartient pour faire cette comparaison.
La nouvelle défense d'Omar Haddad va tout mettre en œuvre pour savoir quels sont ces mystérieux profils génétiques masculins. Seul moyen de relancer le dossier.
Dans ma tête, dans mon sentiment, je ne suis pas libre. La liberté, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça fait dire la vérité? C'est qui s'il a fait ça? Et pourquoi elle a fait ça? J'ai continué ma vie, mais comme je dis encore une fois, l'affaire elle est très très loin de terminer. Le combat est continué pour la vérité jusqu'au bout.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Omar Haddad, un long combat judiciaire pour obtenir un nouveau procès. Tout pourrait se jouer avec les expertises ADN. 20 ans après la condamnation, celle-ci s'accélère. 9 mai 2011, le parquet de Grasse saisit un expert pour déterminer le profil ADN qui se cache derrière les prélèvements effectués il y a déjà une dizaine d'années. Ces traces ADN masculines inconnues figurent sur des scellés conservés depuis 1991 sur les portes de la chaufferie et celles de la cave ainsi que sur le fameux chevron qui a servi à frapper la victime. Des empreintes qui n'appartiennent pas à Omar Haddad. Le fait que ces traces soient mêlées au sang de Ghislaine Marchal semble exclure l'hypothèse de la contamination extérieure par des pompiers ou des gendarmes présents sur la scène de crime. Mais le parquet de Grasse se montre réticent à aller plus loin, trop compliqué, dit-il, sur le plan technique. Les fameuses expertises semblent bloquées. L'espoir de pouvoir comparer ces traces avec le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, cet espoir s'amenuise. 2 ans d'attente et de guérilla judiciaire du côté de la défense d'Omar Haddad. En 2013, la chancellerie donne enfin son accord pour que de nouveaux tests soient effectués. Au fil des mois, il va être établi que les traces relevées sur les deux portes et le chevron appartiennent à 4 hommes. Le parquet continue à évoquer un possible apport de ces empreintes par un tiers extérieur aux investigations, un enquêteur ou même un journaliste qui aurait pu toucher lors du procès ces pièces à conviction. Si l'ADN ne figure pas au fichier FNAEG, je demanderai qu'il soit comparé avec celui des proches de la victime. L'assassin est forcément l'un d'eux puisqu'il connaissait Haddad, prévient alors Maître Novakovic. Et Maître Novakovic qui est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, il y a ces 4 traces ADN qui apparaissent. Ça fait beaucoup plus qu'au début finalement.
Oui, parce qu'en fait...
De quoi s'agit-il?
Eh bien en fait, tout à l'heure j'ai expliqué qu'au niveau du ministère, on m'avait renvoyé devant le procureur en disant au nom de la séparation des pouvoirs, on n'a pas assez de matière, donc on ne peut pas faire effectivement d'analyse. Donc là-dessus, j'ai eu la chance d'être convoqué par Georges Fenech et Alain Touré, et sous leur égide, il y avait un projet de loi qui a été effectué. Et ils m'ont demandé mon avis en tant qu'avocate qui lutte contre les erreurs judiciaires pour parler effectivement de tous les problèmes auxquels je me heurte. Et donc j'ai expliqué que dans cette affaire, j'avais un problème parce que je demandais des actes, donc des expertises, et que malheureusement, je m'opposais à un refus, qu'il fallait absolument que l'avocat, désormais, puisse faire cette demande d'acte. Et c'est la raison pour laquelle le législateur m'a écouté. Et heureusement pour moi, il y a cette loi de 2014 qui m'a permis, en octobre, donc lors de la promulgation de la loi, de réclamer l'ouverture effectivement de ce dossier et la comparaison des ADN qu'on avait retrouvé. Et heureusement, M. Bedos, procureur, a fait droit à ma demande et a désigné le docteur Pascal.
C'est ça. Et donc, c'est une loi importante, vous faites bien de le souligner, d'ailleurs, oui. Parce qu'il y a des avocats qui sont prêts à l'utiliser désormais. Hein,
alors, désormais, c'est important que les avocats le sachent, effectivement, c'est que quand vous voulez saisir la cour de révision, préalablement à la saisine de la cour, vous pouvez désormais, effectivement, faire des demandes d'actes auprès du procureur de la République.
Un mot, Sylvie Novakovic, sur ces quatre ADN masculins.
Oui.
Ce sont quatre ADN différents masculins?
Absolument. Alors, c'est pas le chevron, il n'y a rien. Hein, faut être clair, là c'est que les portes. Donc vous avez deux ADN qui se trouvent sur la porte de la chaufferie et deux ADN sur la porte de la cave à vin. Et il y en a plutôt deux qui m'intéressent particulièrement. C'est l'un qui se trouve sur la porte de la chaufferie, l'autre sur la porte de la cave à vin. Et je vais vous donner, pour vous faire plaisir, c'est quelque chose d'assez inédit, c'est de vous montrer que sur la porte de la chaufferie,
alors,
voyez...
Nos auditeurs à la radio ne le voient pas, mais il y a la photo effectivement de,
voilà,
de la main.
Voilà, vous allez pouvoir le décrire à l'auditeur. Ouais, ouais, on voit ça. Effectivement les inscriptions en lettres de sang de la porte de la chaufferie. Et vous voyez, toutes ces petites étiquettes, ce sont les 35 traces du même ADN qu'on retrouve à l'endroit des écritures.
Et ces 35 traces vont d'ailleurs vous appuyer là-dessus pour vos démarches.
Hein. C'est ce qui m'a permis d'appuyer dessus devant la cour de révision. C'est-à-dire qu'on peut parler effectivement d'ADN de pollution, car effectivement, les portes ont été maniées à plusieurs reprises. Mais lorsque c'est mélangé au sein de la lecture...
Bien sûr.
Mélangé au sein de la victime et sur l'écriture et mélangé, celui-là on ne peut plus parler effectivement d'ADN de pollution.
Ça veut dire qu'on a tenu le doigt de Madame Marshall ou en tout cas qu'on a imprimé soi-même.
Ou ce fut le doigt même du meurtrier.
Ou le doigt même du meurtrier. Jean-Marie Roire, un mot, on a le sentiment que, et toute l'affaire va être comme ça, que la justice, ça freine beaucoup. C'est lourd à manier. On n'a pas envie d'aller rechercher un dossier, de mettre en cause une condamnation.
Oui, mais je pense que la partie civile a joué quand même un grand rôle. Elle a changé maintenant, puisque maintenant, elle commence à admettre les nouvelles preuves. Mais pendant très longtemps, et il y avait quelqu'un de très important, puisque le beau-frère de la victime était le bâtonnier du Grand Rue. Et c'est lui qui m'a fait condamner, d'ailleurs, devant la 17e chambre. Donc, et c'est lui qui a fait écrire les deux livres contre moi. Donc, j'en ai eu les preuves.
Il y avait donc une pression.
Il y a eu une pression très forte.
Pression judiciaire.
Je ne vais pas trop le dire, parce que c'est pour ça que j'ai été condamné.
Donc, ne le redites pas, sinon on va avoir droit à de la diffamation. Ces découvertes ADN seront-elles suffisantes à faire rouvrir le dossier Radad? C'est ce qu'espère la défense du jardinier, qui va devoir tout de même patienter 5 années supplémentaires pour avoir une réponse. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Omar Radad, le jardinier marocain a été condamné en 94 pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marshall. Toutes les demandes de révision de son procès ont été rejetées. 30 ans plus tard, la justice réexamine son cas. Jeudi 25 novembre 2021, la Cour de cassation se penche à huis clos sur le dossier Radad. Le jardinier est présent, intimidé par le décorum et l'enjeu d'un tel rendez-vous. C'est son avocate, Maître Novakovic, qui, après des années de procédure, a obtenu l'examen de cette requête en révision. En 2002, celle-ci avait été rejetée. Nous apportons des éléments probants, mettant en doute la culpabilité d'Omar Radad, annonce l'avocate. Requête qui s'appuie sur les progrès de la science ADN. Au total, 4 empreintes génétiques appartenant à 4 hommes, 2 traces parfaitement exploitables, 2 autres partiellement, sont présentées à la cour. Un autre rapport, commandé par la défense, indique la présence de 35 traces d'un même ADN masculin sur la scène de crime. Omar Radad, qui n'apparaît jamais au sein de ces ADN, espère que cette fois le doute va relancer la machine judiciaire. Jeudi 16 décembre 2021, la Cour de cassation rend sa décision. Cette fois, la porte n'est plus fermée à la réouverture du dossier. 30 ans après le meurtre de Ghislaine Marshall, 27 ans après la condamnation de Omar Radad, la commission d'instruction ordonne un complément d'information. En clair, de nouvelles investigations destinées à examiner les pièces déposées par la défense du jardinier et peut-être aller plus loin, dire si les nouveaux ADN sont de nature à donner une toute autre tournure à l'enquête, l'espoir d'Omar Radad et d'obtenir bien sûr à terme la révision de son procès. Cette décision est un pas vers la révision. La bataille n'est pas terminée, indique à la sortie de l'audience Maître Novakovic. Et Maître Novakovic, on vous retrouve dans cette heure du crime, dans le studio de l'heure du crime. La bataille n'est pas terminée. C'est juste le début, là. Dites-nous un petit peu ce qui va se passer.
En fait, c'est extraordinaire. Faut pas se cacher que véritablement, c'est l'aboutissement d'un non-combat, mais c'est le début d'un non-combat aussi. Mmh. En ce sens que là, maintenant, on va examiner donc la commission d'instruction. Il y a deux conseillers qui ont été désignés. Donc, ils vont examiner les documents que j'ai apportés, notamment l'expertise judiciaire donc du docteur Pascal, également l'expertise de M. Brignot qui analyse et donne des solutions au rapport du docteur Pascal.
Alors, c'est quand même extraordinaire, cette expertise avec 35 traces, c'est
ça ? Vous vous rendez compte ? 35 traces du même ADN.
Alors, il faut bien l'expliquer. 35 traces du même ADN dans le sang de Ghislaine Marchal, c'est
oui,
ça ?
Oui, et surtout à l'endroit des écritures OMT, etc. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire. Donc là, on ne peut plus parler d'un ADN de pollution. L'ADN de pollution, c'est quoi ? C'est dire qu'évidemment, la porte a été maniée, qu'il y aurait pu y avoir des enquêteurs, des magistrats qui ont touché les portes, des journalistes. Sauf que, bien sûr, sur les 4 ADN qui ont été retrouvés, très vraisemblablement, il y en a 2 qui sont des ADN de pollution. Mais il y en a 2 autres, on ne peut plus dire qu'il s'agisse d'ADN de pollution, à savoir celui qui a matché avec le fichier national des empreintes génétiques, celui qui se trouve sur la porte de la cave à vin, et le deuxième qui se trouve sur la porte de la chaufferie.
Alors, celui qui a matché, juste un mot là-dessus.
Oui.
On sait qui ?
Alors, un nom est sorti, c'est une personne qui a été condamnée en plus, mais apparemment, c'est sous l'égide de monsieur Prêtre, un procureur que j'ai quelque peu combattu quand même.
De Nice, c'est ça.
De Nice, mais malgré tout, là aussi, il faudra explorer cette piste, sachant que de toute façon, il y aura des recherches en parentèle à effectuer, etc. Ça sera la deuxième étape que j'attends.
Cette personne est toujours vivante aujourd'hui ?
Bien sûr, la personne dont le nom a matché est vivante, mais je ne dis pas que c'est elle. Je dis qu'on verra, et il faut voir, effectivement, il faut rechercher à partir de cet ADN, voir s'il ne s'agit pas d'un parent allié, etc.
Bien
c'est
sûr.
À voir.
Jean-Marie Rouard, évidemment, je ne vous demande pas si vous avez été heureux lorsque vous avez appris que finalement l'enquête peut-être pouvait repartir et qu'on avait cet espoir d'avoir peut-être un jour un nouveau procès. Quel a été votre sentiment à ce moment-là ? Vous êtes dit, enfin, le combat, ça finit par payer, c'est ça ?
Bien sûr. Je me suis dit que ça faisait 26 ans que j'avais publié ce livre et que je n'ai pas cessé de croire à l'innocence de Maralade. Donc, mais j'ai pensé à la phrase de Churchill, vous savez, il disait on peut mentir, on peut dissimuler une vérité à quelques personnes pendant un certain temps, mais on ne peut pas dissimuler la vérité à tout le monde, tout le temps. Et vraiment, je crois que cette vérité, elle devait éclater un jour. Moi, je ne pensais pas que je le verrais de mon vivant, je pensais que ça serait plus tard, mais grâce à Maître Novakovic, qui s'est battu comme une lionne, vraiment, non, ça a été une grande satisfaction. Je me suis rendu compte que maintenant, c'était possible, qu'on allait bientôt arriver à l'élucidation de ce crime. Et en même temps, je suis content pour Omar Haddad, puisque c'est vrai que pour lui, c'est un homme qui croit en la France et il croit en la justice. Mmh. Donc vraiment, ça serait pour lui une formidable... son espoir serait enfin satisfait.
Juste un mot, Maître Novakovic, vous l'avez eu évidemment au téléphone après la décision.
Oui, tout de suite.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Merci. Déjà, et on le sentait extrêmement ému au téléphone, et puis il a dit merci à tous, enfin franchement il se sent soutenu et bien sûr maintenant il a plein d'espoir, tous les espoirs sont permis, mais je ne vous cache pas qu'il était il avait une grosse appréhension avant la décision.
Pas de nouveau procès en vue à ce stade de la procédure, mais la prise en compte d'une troublante série de traces génétiques seront-elles de nature à changer la donne dans l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises ? Nous verrons bien. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Omar Haddad, 30 ans après la mort de Ghislaine Marchal, la justice vient d'ordonner un complément d'information, un espoir pour le jardinier toujours condamné de voir son procès révisé. Omar Haddad, 59 ans, 28 ans à l'époque des faits, demeure l'une des figures majeures de la chronique criminelle. Il a passé ses 30 dernières années à vivre dans la peau d'un condamné en dépit des doutes, des interrogations qui n'ont cessé de planer sur cette histoire. Au centre d'un enjeu public, innocent pour les uns, coupable pour les autres, Maître Henri Leclerc, avocat de la famille Marchal, rappelait ainsi dans Le Monde que la victime avait elle-même désigné son meurtrier. Elle a le courage de l'accuser avant de mourir, Comment aurait-elle pu se tromper? C'est un peu comme un roman d'Agatha Christie, cette histoire, et les gens refusent que la clé de l'énigme soit aussi simple. Omar Radat vit à Toulon, il ne travaille plus vraiment, il serait de plus en plus fragile. À chaque fois qu'il sort, tout le monde l'aborde, lui dit « Félicitations pour votre acquittement ». Mais il n'est pas acquitté et cela lui fait mal, raconte son fils Karim, qui souhaite que son père soit innocenté une bonne fois pour toutes, avant qu'il ne meure. Jean-Marie Roire, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Il y a parfois des affaires qui portent le nom ou le prénom de la victime. Ça pourrait être l'affaire Ghislaine Marchal ici. C'est devenu l'affaire Radat. Pourquoi ?
Parce que je crois que c'est dû à l'inscription. Et l'inscription sur les portes, le mot Omar. Et puis je pense que ce qui fait que cette affaire a été très emblématique, c'était la rencontre de deux milieux sociaux complètement différents. Mmh. C'est vrai que c'était à la fois un jardinier marocain qui était qui parlait mal le français.
Pas très lettré.
Voilà, pas très lettré. Et puis une femme de la très grande bourgeoisie, le monde des riches. Enfin bon. Et cette rencontre mystérieuse entre deux mondes, voilà. Et puis, c'est rajouté peut-être aussi le fait que moi-même, j'étais plutôt du côté de cette bourgeoisie et que cette rencontre avec Omar a été un peu mystérieuse. Quand je l'ai fait venir à l'Académie française, c'était vraiment.
Alors, l'avez fait venir à l'Académie française?
Oui, je l'ai fait venir à l'Académie française. Alors, au début, l'Académie a un peu régimbé et m'a dit non, vous. Il faudrait mieux qu'ils ne viennent pas. J'ai dit, bah, ça, c'est con, je ne vais pas non plus. À part le bon pour la revenir. Et donc, mais il est venu avec Maître Vergès. Et donc, c'était, si vous voulez, la rencontre de plusieurs mondes mystérieux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Donc, ça faisait comme dans une bombe des éléments détonnants qui ont, en effet, été intéressés parce que c'était une coupe dans la société française.
Et c'est les ingrédients d'une histoire criminelle hors norme, évidemment. Hein, on peut la voir comme ça. Sylvie Novakovic, avocate, évidemment, d'Omar Radat, je le disais, 30 ans dans la peau d'un coupable, puisqu'il est aujourd'hui officiellement toujours coupable, Omar Radat, en dépit de sa demi-grâce qui avait été accordée par le président Chirac. Comment vit-il aujourd'hui, Omar Radat ?
Ah ben, il vit très mal. Il vit très mal cette condamnation. Bien sûr, beaucoup de gens le pensent blanchi, et c'est ce qu'il me dit souvent. On me croit blanchi, mais ce n'est pas le cas. Je souhaite être blanchi pour moi-même et pour ma famille. C'est une question non seulement d'honneur, mais je ne supporte surtout pas l'idée qu'on puisse penser que je sois le meurtrier d'une femme que j'aimais beaucoup. Et quoi qu'il arrive, je ne suis pas un meurtrier. C'est terrible pour moi, cette accusation horrible. Il le vit très mal. Chaque jour qui passe est un calvaire. Mmh. Et tant qu'il ne sera pas acquitté, eh bien, il le vivra mal. Donc, c'est la raison pour laquelle on sent à quel point cet homme souffre. Il est handicapé parce qu'il est dépressif et il ne pourra malheureusement jamais se reconstruire tant qu'il ne sera pas acquitté et blanchi.
Alors, il vit à Toulon. Il est très entouré par sa famille, je crois. Hein.
Bien
il
sûr,
est, sa famille. Qu'il a toujours soutenu, d'ailleurs. Hein.
Sa famille l'a toujours soutenu. Ses deux enfants. Il est très fier de ses enfants qui réussissent dans la vie et qui sont toujours auprès de lui. Sa femme a toujours été auprès de lui. C'est une famille très unie. Et Dieu merci, ils sont ensemble. Ils sont autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle cette famille mérite effectivement cette décision que j'espère vraiment la plus rapide possible, qui va enfin leur permettre de passer à autre chose, parce qu'aujourd'hui, cette famille ne passe pas à autre chose, il faut le savoir.
On n'a pas de timing, Maître Novakovic.
Alors, le timing, c'est que là, déjà, la cour de révision, la commission d'instruction va examiner effectivement les expertises que j'ai apportées, et puis, dans un second temps, elle devra se prononcer pour savoir si tout ce que je demande, toutes mes demandes d'axe, vont être faites, effectuées ou pas, et ce que j'espère, bien sûr, c'est qu'on fasse droit à toutes mes demandes.
Un dernier mot, s'il y a un jour un nouveau procès, sait-on jamais, hein, peut-être même dans quelques années, il sait Omar Radat qui sera appelé à comparaître et il sera là.
Bien sûr, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, mais quel serait, pourquoi prendrais-je un tel risque si je ne me savais pas innocent? Donc justement, il serait masochiste. S'il le fait, c'est parce que justement il sait qu'il est innocent et il veut être blanchi et il veut son second procès. Vous savez que c'est grâce à cette affaire que maintenant on peut faire appel devant la cour d'assises et pourtant il n'en a pas bénéficié.
Merci beaucoup Maître Sylvie Novakovic et merci beaucoup Jean-Marie Roire d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime dans l'affaire Omar Radat. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et puis Dany Matouk qui était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.